à cette édition de Contestant Sportif sur les ondes de Chiz 94.3. Charles Leblanc à l'animation. Aujourd'hui, notre habituel Félix prend congé. Mais écoute, on est avec Victor Marchand en première
bien
moitié.
Meilleur.
Bien meilleur, exact. Pour nous parler de football. Victor, ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Ça va super bien. Et en deuxième partie, pour la première fois, je pense, de l'édition depuis que moi et Félix, on est là, on a un invité qui n'est pas... Si on considère Victor comme un invité, mettons, tu reviens souvent, disons.
Ouais.
Donc, Liam Hood, rédacteur en chef du site Alley-Oop 360, va nous venir parler de la NBA. Mais avant ça, Victor, c'est la messe du football dimanche prochain, le Super Bowl.
Ouais. Écoute, c'est le plus gros match de la saison, c'est clair. Ça va être un excellent match, là, je pense, pour vrai. On va avoir une belle rencontre entre deux des meilleures équipes de la ligue. On avait hier soir, si je me rappelle bien, on avait les trophées individuels qui ont été rendus en fait. Là, donc comme de fait, Lamar Jackson a été le joueur par excellence. On s'en doutait très certainement. Pas beaucoup de grandes surprises, mais Caffrey a été le joueur par excellence offensif de la saison. C'est un joueur qui va vraiment avoir un impact extrêmement important sur ce match-là là, contre les Chiefs. J'en ai parlé un peu la semaine passée. Là, je disais justement, si ce gars-là fait 200 verges et marque 4 touchés, ben ce match-là va
ça
être
va
difficile.
Ça va être un peu dans la poche pour San Francisco.
Ce match-là va être difficile pour les Chiefs. On verra comment la défense par la course des Chiefs pourront battre McCaffrey. On a vu cette défense-là avoir un peu de misère contre les Bills. On sait que les Bills ont un carrière beaucoup plus mobile que ce que les Niners ont, mais si McCaffrey réussit à trouver un peu d'espace, ça pourrait faire extrêmement mal là, au Chief. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais selon moi, c'est la pièce importante. Puis ça a été récompensé avec ce prix-là.
Ben, c'est ça. Comme tu l'as dit, je pense que c'est le joueur clé. Malgré tout le talent offensif que les 49ers ont, je pense que c'est le joueur à surveiller. Pour revenir au MVP, pendant presque toute la saison, selon moi, c'est celui qui le méritait.
Ouais.
Tu l'as dit, pas grande surprise. Je pense que Lamar Jackson s'est un peu distancié à la fin. A fini fort. C'est souvent ça qui est bon aussi.
Son dernier match, ben pas son dernier match, mais le match qu'il a joué contre les 49ers qui a été extrêmement important. On pensait à Purdy à ce moment-là, peut-être.
Tyreek Hill à la fin avec sa blessure, c'était un peu effacé des discussions.
Exact. Mais... Et, c'est tellement dur pour un joueur de position d'avoir ce genre de prix-là. Là. C'est souvent les carrières qui vont le chercher. Donc, Josh Allen a toujours été un petit peu dans la course, on savait pas trop ce qui allait arriver, beaucoup de revirements de son côté, une équipe qui a eu de la misère en début de saison. Ça semblait vraiment être une bataille entre peut-être McCaffrey, s'il rentrait par un peu la porte en arrière, ou un gars comme Brock Purdy, ou encore Lamar Jackson qui l'a finalement gagné. Donc ce match-là contre les Niners a été mémorable. En fait, là, finalement, Lamar a explosé complètement dans ce match-là, dominé complètement les Niners. C'est là qu'il est allé chercher ce prix-là, là, clairement.
Ouais, c'est ça, je parle. Pendant longtemps, je me disais que c'était McCaffrey qui le méritait parce que justement, souvent, c'est les carrières qui reçoivent ce prix-là. Mais cette année, on n'avait pas de méga saison d'un carrière comme Patrick Mahomes nous a habitué. Ou tu sais, c'était pas des mauvaises saisons des têtes d'affiche. Donc, je me disais que c'est peut-être l'année où est-ce qu'un joueur de position comme McCaffrey se faufile, mais Jackson, à la fin, là, tu sais, a connu un gros match. Puis tu sais, juste sur ses 4-5 derniers matchs aussi, a été très bon. Donc, logique a été respectée. C'est un carrière qui a remporté l'MVP.
Exact.
Et je pense que c'était mérité.
Oui, ouais, clairement. Dans les autres prix, quand même intéressant, là, les Browns qui vont en chercher deux.
Ouais.
Le revenant de l'année.
Trois. Si on compte le coach de l'année.
Oui, exact. Ouais, avec Stefanski. Mais oui, donc Flacco qui va se retrouver avec le revenant de la saison. Miles Garrett, joueur défensif. Mais que dire de Stefanski? C'est un gars qui vient de gagner son deuxième entraîneur de l'année. C'est un excellent entraîneur. T'sais, c'est un gars qui est arrivé. On pensait que ça allait être Deshaun Watson le carrière. Finalement, c'est Joe Flacco qui va finalement amener son équipe en série.
Quel âge? Dans la quarantaine?
J'allais dire 38-39, puis peut-être dans la quarantaine. C'est un gars qui arrive, sans dire qu'il arrive de nulle part, c'est un gars qu'on ne pouvait pas s'attendre.
On pensait à la retraite presque. Là.
On ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il mène une équipe en série. Mais cette équipe-là est tellement bien rodée, bien ficelée. C'est une équipe qui peut vraiment faire des flamèches quand la défensive joue bien. C'est la meilleure défensive de la Ligue cette année là, pour une bonne raison. Là, c'est vraiment pour ça qu'ils ont été une des bonnes équipes de la Ligue. Malheureusement, ont été battus par une équipe qui va en chercher quelques-uns aussi des prix. Les Texans de Houston, qui vont chercher deux prix extrêmement extrêmement intéressant. Là. Joueur recru de l'année offensivement et joueur recru de l'année défensivement. C'est rare qu'on voit ce genre de choses-là. Donc, on est allé chercher ces deux de nos choix dans le top 4 là, qu'on est allé chercher. C.J. Stroud était sorti 4e. Je pense que Will Anderson était sorti 2e au dernier repêchage. On frappe fort avec ces deux joueurs-là.
Ouais, c'est bon pour l'avenir. Là.
Exact. C'est une équipe. On verra comment on est. Est-ce qu'elle saura être coachée de la bonne façon ou est-ce qu'on aura assez avec Stroud et avec les armes autour de lui pour aller loin. Tant qu'on n'aura pas de succès au cours des années, ce sera dur de dire justement si on a vraiment une équipe qui peut avoir du succès dans le futur. Mais pour l'instant, avec ce qu'on voit, avec ce qu'on a vu de la saison recrue de C.J. Stroud, de Will Anderson et de toute cette équipe-là, ben, l'avenir semble extrêmement beau à Houston. On verra si on peut répéter ces exploits-là pendant plusieurs années. C'est ça qui fait des grandes équipes. C'est ça qui fait qu'une équipe est excellente, ou c'est ça qui fait qu'un carrière est excellent, c'est quand tu es capable de répéter des saisons exceptionnelles semaine après semaine, année après année. C'est un peu ça qu'on voit dans la NFL présentement. T'sais, les meilleures carrières, c'est les Lamar Jackson, c'est les Patrick Mahomes, c'est les Josh Allen, c'est des gars qui sont capables d'aller chercher des années prolifiques plusieurs fois d'affilée. C'est ça que les meilleures carrières sont capables de faire, c'est ça que les meilleures équipes sont capables de faire, d'aller en série, de se battre pour un Super Bowl à chaque année. Donc on verra si les Texans peuvent se rendre là, une belle victoire en série cette année, si on peut continuer cette progression-là. Je pense qu'il y a vraiment un beau potentiel, et avec ce qu'on a fait avec ces deux joueurs-là et avec le reste de cette équipe-là, ben ça ne peut qu'être beau. En plus, on va encore pouvoir repêcher de la meilleure des façons cette année, donc on verra ce que ça donne.
Ouais, puis leur entraîneur-chef a fini 2e derrière celui des Browns pour le titre de coach de l'année.
Exact. Donc, au final.
Puis lui aussi, je pense que c'est un peu un jeune entraîneur, donc ça va être de, comme tu as dit, ça va être de continuer sur leur lancée. C'est CJ Stroud qui a fini 2e derrière McCaffrey pour joueur offensif de l'année, ouais. qui est souvent aussi le joueur de position qui gagne pas l'MVP, là, c'est souvent lui qui reçoit le prix. Là, on parlait de McCaffrey pour l'MVP. Finalement, il y a eu joueur offensif. Tyreek Hill était dans la discussion aussi. Je pense que c'est trois joueurs qui l'auraient mérité. Donc, ouais. Une très, très bonne saison pour CJ Stroud. Ça avait commencé. Il a joué bien toute la saison, mais il a vraiment pris son rythme là, après quelques matchs. Un corps recru, on s'attend pas à ce qu'il brûle la ligue. Dès son premier match, mais ça n'a pas pris trop de temps non plus là, avant qu'il s'établisse comme exact. Un des bons du circuit.
Au final, justement, on parlait un peu des Texans, mais il y a plusieurs échanges qui ont lieu avec cette équipe-là. Les Texans, au final, sont allés chercher, je sais plus, 3 ou 4 choix de première ronde, là, si je me rappelle bien, avec Deshaun Watson au final. Là. Donc, c'est ce qui nous a amené justement à avoir beaucoup de choix bien placés. Et on avait justement fait ce genre d'échange-là avec l'Arizona. On est allé chercher, on avait échanger deux choix là pour aller chercher le choix de l'Arizona. Donc l'Arizona qui va chercher le choix d'Houston de cette année. Donc au final, les gens se disaient que Houston n'aura pas une bonne saison, donc l'Arizona pourrait peut-être avoir le premier puis le deuxième choix. Au final, les Texans ont tellement une bonne saison que ce choix-là va se retrouver dans le top 25. C'est finalement un échange qui semble assez intéressant pour eux, surtout quand on voit que Will Anderson et C.J. Stroud ont une excellente saison. Ça semble être payant. On verra comment l'Arizona peut se servir de ce choix-là des Texans. Est-ce que ce sera pour aller chercher peut-être une autre vedette? On verra. Mais pour l'instant, de la façon qu'on gère nos choix, qu'on gère notre effectif, c'est extrêmement bien fait. T'sais, juste de Sean Watson, de l'échanger pour autant que ça avec un joueur qui n'a pas fait grand-chose. Et là, justement, d'aller chercher... c'est rare qu'il y ait des équipes qui vont... Ben, c'est pas rare, mais c'est difficile d'aller échanger vers le haut, d'aller chercher des choix plus haut en donnant beaucoup d'autres choix et de dire, OK, t'as peut-être gagné l'échange. Mais là, quand tu vas chercher un gars comme Will Anderson, tu vas chercher un gars comme C.J. Stroud, ben tu peux
dire que...
Ouais, tu peux te dire que finalement c'était peut-être un des bonnes façons de faire.
Ouais, les deux prochains prix, le joueur défensif de l'année et recrue offensive de l'année. Ben peut-être plus joueur défensif de l'année. Est-ce que t'es surpris un peu que ce soit Myles Garrett considérant la saison de T.J. Watt?
Ouais, ben je pense que les deux auraient pu le mériter, mais tu sais ce que fait Myles Garrett pour cette défensive là, tu sais, je pense que c'était la meilleure défensive contre la course si je me rappelle bien, ou en tout cas une des bonnes contre la course. On met de la pression sur carrière, tout passe par ce gars-là. Je veux dire, depuis plusieurs années, c'est ça. C'est un joueur exceptionnel. Oui, T.J. Watt a une excellente saison. Je pense que pour l'apport que Myles Garrett peut avoir avoir pour une équipe, c'est un choix qui se défend très bien, là, clairement.
Ouais, en même temps, TJ Watt mène Myles Garrett sur à peu près toutes les statistiques individuelles.
Je trouve que la présence de Garrett est un peu différente. Il y a de quoi de différent avec lui. Je pense que vraiment, cette défensive-là est basée, c'est les colonnes de cette défensive-là, c'est Myles Garrett. Je comprends qu'il y a plein d'autres joueurs qui sont excellents. Je veux dire, il y a des demi de coin qui sont excellents. Denzel Ward en est un, par exemple, qu'on connaît. C'est vraiment une bonne défensive au complet, mais Myles Garrett, ce qu'il amène sur cette ligne-là est excellent. Mais tu sais, je veux dire, t'as raison. TJ Watt, c'est un excellent joueur, mais je sais pas.
Je pousse un peu pour TJ Watt, mais je pense que, comme t'as dit au début, les deux le méritaient. Il y avait, tu sais, des arguments pour les deux joueurs. Au final, il faut juste que t'en choisisses un. C'est sûr que tu vas faire des mécontents.
Ouais. Ouais.
Un peu la même chose du côté de la recrue offensive de l'année. C'est CJ Stroud qui a gagné, mais Puka Nakua aurait très bien pu le remporter
mais
aussi.
Mais encore là, t'sais, un carrière qui a une saison comme ça, comme recrue, c'est dur de lui dire non, tu la gagneras pas. Puka a eu une excellente saison, je suis d'accord vraiment, là, mais tu peux pas ne pas la donner à CJ Stroud. Un carrière qui a une saison comme ça, tu pars vraiment avec un avantage. Puis
c'est tellement dur d'être un carrière en étant recrue aussi. Là, ouais. T'as tellement de trucs à apprendre. La charge mentale de cette position-là,
exact,
est énorme.
Ouais.
Comme tu dis, c'est difficile de pas le donner un carrière quand il excelle autant comme ça. Là.
Sinon, tu sais, ce qu'on a appris, c'est pas une grande nouvelle, mais un joueur qui m'a marqué, moi, quand j'étais jeune, un gars comme Devine Hester, qui va devenir un Hall of Famer, donc qui va aller au temple de la renommée du football. Là. C'est un gars qui était tellement le fun à voir aller, là, un gars qui retournait les bottés. T'sais, chaque fois qu'il avait le ballon dans ses mains, on avait peur de ce qu'il pouvait faire. D'autres joueurs qui vont probablement sonner des cloches à certains. Patrick Willis, qui va être dans cette classe-là. Julius Peppers. Andre Johnson, Dwight Freeney qui vont être aussi là, mais voilà, c'est le fun de voir un retourneur comme ça qui a eu tellement de succès comme retourneur avoir justement cette reconnaissance-là. C'est pas la meilleure des comparaisons parce que c'est pas exactement le même type de joueur. Tyreek Hill fait pas exactement la même chose, mais Tyreek Hill et lui, de la façon qu'ils peuvent changer un match juste avec le ballon dans leurs mains, c'était fou. Esther, c'était comme retourneur, mais Tyreek Hill, quand il a le ballon dans ses mains, je veux dire, si tu rates un plaqué, si tu joues pas à la bonne couverture, c'est fini. Là, il s'en va dans la zone début. Tout le monde va se rappeler de ce long jeu-là à Tyreek Hill contre les Bills avec les Chiefs il y a quelques années qui avait amené ce match-là à être un match fou là, où est-ce qu'on avait eu tellement de points dans les dernières minutes. Mais tu sais, c'est ça. Donc, je pense que c'est le fun de voir des joueurs explosifs comme ça, avoir un peu de reconnaissance. Un joueur qui n'a pas nécessairement eu beaucoup de succès comme certains autres receveurs avec le ballon dans leurs mains après avoir attrapé une passe, mais comme retourneur, c'était fou. C'était vraiment excellent. Donc, non, c'est le fun de voir ce genre de joueurs-là avoir de la reconnaissance. Là.
Ouais, puis pour recrue offensive, Sam Laporta n'était pas nécessairement dans la course avec les deux devant lui, mais je trouve que sa saison mérite d'être mentionnée quand même. Ouais. Le Détroit qui échange TJ Hawkinson, un des meilleurs ailiers offensifs du circuit. Tu te dis, bon, ils perdent quand même une arme assez importante de leur attaque. Ils se retrouvent à l'en repêcher un. Ils connaissent une aussi bonne saison presque que Hawkinson.
Moi, ce qui m'a... nous avons parlé de fantasy parce que moi, ça m'a tellement fait mal. Là. J'ai fait des cauchemars. Toute l'année, j'ai fait des cauchemars parce que... Tu dois t'en rappeler parce qu'on parlait de ça. Moi, j'étais vraiment, vraiment, vraiment dans le bateau des ailiers rapprochés des Packers. Moi, je voyais vraiment à un de ces deux-là. Il y avait deux recrues qui étaient là. Je voyais vraiment une de ces deux recrues-là avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Finalement, ça n'a pas été un grand succès pour ma part. Je me trouvais assez intelligent de me dire ça va être un de ces deux gars.
Je pense que t'étais un peu tout seul dans ta gang, mais bon.
Hey, si jamais ma stratégie avait marché, j'aurais eu l'air d'un génie. Malheureusement, ça a moyennement marché, on va se le dire comme ça.
C'est un peu tout ça comme ça.
Mais ouais, donc non, mais clairement, Laporta, écoute, c'est un joueur qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. C'est un gars qui, dans cette attaque-là des Lions, et même dans cette équipe-là des Lions, comme on l'a dit, qui est extrêmement jeune, beaucoup de recrues qui sont dans cette équipe-là, défensivement et offensivement. Jameer Gibbs, c'est un autre joueur qui a eu une excellente saison avec les Lions, qui a éclos un peu plus longtemps, un peu plus...
Sur le tard.
Ouais, un peu plus sur le tard, mais ça reste un excellent joueur. Donc non, c'est vraiment intéressant là, de voir ça, de voir cette équipe-là, de voir cette cohorte-là de recrues, malgré qu'ils ne gagnent pas de prix, c'est une équipe qui va avoir beaucoup de succès probablement dans le futur. On verra si Jared Goff peut avoir des bonnes saisons encore une fois. pendant quelques années encore. Mais écoute, j'ai moyennement de confiance envers lui, mais pour l'instant, il montre qu'il est bon. Donc s'il continue à faire ça,
ouais, un peu la Brock Purdy là, gère le match, faut qu'il s'assure de pas faire trop de revirements.
Ouais, exact. On verra. Écoute, j'ai pas de doute par rapport à cette au reste de l'attaque des Lions. Donc je pense que si Jared Goff réussit, justement, comme tu le dis, gérer le match, faire les bonnes passes au bon moment, ça peut être une bonne recette pour cette équipe là. On le voit, les game managers, comme tu l'as dit, des gars qui gèrent les matchs, c'est des gars qui commencent à avoir de plus en plus la cote, mais d'avoir encore la cote dans la Ligue nationale de football. On voit des gars comme ça qui sont allés au Super Bowl. Brock Purdy en est un, mais les 49ers avaient ce même genre de joueurs là quand ils sont allés au Super Bowl avec contre les Chiefs avec Jimmy Garoppolo. On verra ce que ça donnera, mais ce sera intéressant de regarder les Lions aller. C'est un entraîneur qui semble avoir la cote avec ses joueurs. Donc, s'il peut continuer à bien faire, ben, le ciel semble être la limite pour cette équipe-là.
Mais oui. Écoute, tu parlais de carrière qui gère le match, d'entraîneur qui a la cote chez ses joueurs. On pourrait un peu décrire les 49ers de cette façon. Dimanche prochain à 18h30, c'est le match de l'année.
Ah ouais.
Contre les Chiefs. Un match vengeance de, là, je me rappelle plus de l'année. C'est quoi, il y a 2-3 ans?
2020. C'était à Miami, ce match-là, si je me rappelle bien aussi.
Ça se peut. Deux climats chauds. Là, c'était à Las Vegas.
Ouais.
Le stade, est-tu couvert à Las Vegas?
Oui.
Ouais, OK. Bon.
Mais, écoute, on a eu des ben, pas des controverses, mais on a eu quelques affaires qui ont retenu l'attention durant les dernières semaines. La première chose qui a été spéciale un peu, c'est l'affaire des terrains de pratique. On était comme les Raiders. Pas les Raiders, mais les 49ers étaient l'équipe, en fait les Chiefs sont l'équipe hôtesse, donc décident dans quelles infrastructures ils veulent évoluer. Finalement, les Chiefs ont décidé bien évidemment d'évoluer dans les infrastructures des Raiders, parce que clairement c'est les plus belles qu'on a à Las Vegas. Et on a les 49ers qui sont retrouvés dans les infrastructures de UNLV, je pense, là, d'une université à Las Vegas. Et là, on s'est plaint un peu de la qualité du terrain. On n'aimait pas ce qu'on voyait avec ce terrain-là. C'était pas la même qualité qu'avec les Raiders. Écoute, je suis pas un pro en qualité de terrain. On parlait de cote et tout, là, puis que la cote des Raiders était pas mal moins bonne. C'est une espèce de situation un peu bizarre. On sait pas trop pourquoi ça fuit comme ça. On sait pas si vraiment les... Bon, on se doute vraiment que c'est vrai. On se doute qu'il y a vraiment eu ça, que les Niners sont vraiment déçus de la qualité de leur terrain. Mais on verra si ça aura un impact sur le match. J'ai pas l'impression que ça sera un tant important pour le match, mais c'est le genre de truc, le genre de controverse un peu spécial. On se demande pourquoi la NFL n'est pas capable d'avoir, je sais pas, plus une façon de faire qui fait que tout le monde a la même qualité de terrain.
Ouais, en même temps, je sais pas si Las Vegas étant une grosse ville universitaire.
Ouais, mais tu sais, je veux dire, on a parlé après ça de peut-être partager le terrain des Raiders. Donc, en tout cas, on verra comment ça affecte une des deux équipes. Ça devrait pas affecter personne, selon moi, quand même, genre de situation un peu spéciale qui est arrivée durant la semaine. Mais c'est, voilà, c'est genre de truc un peu spécial. On a eu, sinon, les injury reports, pas ça en français, là,
la liste des blessés,
exact, qui est sortie. Donc, pour l'instant, du côté des Chiefs, il y a pas beaucoup de nouveaux. C'est-à-dire qu'on a perdu quelques joueurs durant la dernière semaine, là. Durant les dernières semaines, en fait, là, Joe Tooney qui s'est blessé. On sait que sa présence au match est extrêmement douteuse. Je pense pas qu'il joue. C'est un joueur qui a eu beaucoup de succès avec les Chiefs. C'est un joueur qui a été nominé pour le Pro Bowl cette année. Donc, si jamais il était pour manquer le match, ça va faire mal aux Chiefs, clairement, contre une défensive qui est capable de mettre beaucoup de pression sur le carrière. Nick Bosa en est la preuve. Donc, on verra comment ça peut impacter le match. Nick Allegretti, qui l'a remplacé, a très bien fait durant le dernier match, quand même, là, pour un joueur qui n'a pas vu beaucoup de temps de jeu. C'est intéressant de noter sa présence. Sinon, écoute, il n'y a pas beaucoup de changements. On a vu, justement, certains joueurs manquer des pratiques, mais je m'attends à voir à peu près tout le monde être dans l'effectif. Chris Jones a été limité. George Karlaftis, même chose. Ça semble pas trop important. Tu sais, quand t'arrives au Super Bowl comme ça, je pense que tu le joues le match. Si à moins que tu sois pas capable de marcher,
le
joues.
Ouais, c'est ça. Hein, c'est le match. Il y en a plus d'autres après. Tu donnes tout ce que tu as. Tu demandes au physio de te mettre du tape, de la mousse.
Ouais,
puis,
ouais. Donc, on verra. Écoute, ça sera Charles Omianu qui s'est blessé aussi durant le match contre les Ravens, qui s'est déchiré le ligament croisé. C'est le genre de joueur qui avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès cette année. C'est un joueur qui joue sur un des côtés, sur la ligne défensive. On va voir si les Chiefs peuvent remédier à ça. C'est une équipe qui adore blitzer. Donc, de perdre un joueur comme ça, ça peut faire mal là, si on n'a pas un remplaçant capable de faire la différence. Mais c'est ça. Donc, tu sais, quand t'arrives au Super Bowl comme ça, c'est la théorie. Ben, pas la théorie, mais c'est la... Faut que tu sois en mode next man up. C'est le prochain gars sur la ligne qui doit faire la job. Donc, on verra comment ça va de leur côté. Mais on adore blitzer. Donc, est-ce qu'on pourra mettre de la pression sur les 49ers? Ce sera à voir. Du côté des Niners, le seul vrai joueur qui pourrait peut-être manquer le match, c'est Embry Thomas, qui est un demi de coin, qui joue pas nécessairement juste demi de coin, là, mais qui peut jouer demi de coin, qui joue demi défensif. C'est un autre joueur qui pourrait faire extrêmement mal à cette équipe de secondaire là. On verra si sa présence va se faire pour le Super Bowl, mais pour l'instant, on semble dire qu'il pourrait jouer. Donc sinon, c'est vraiment ça. C'est vraiment Joe Tooney qui vraiment fait mal et Charles Omeyanu qui va aussi manquer le match pour les Chiefs. C'est deux pertes pour les Chiefs qui vont faire mal. On verra si ça a un impact sur le match.
Ouais, tu parlais du next man up. Juste à penser, il était pas là à cause d'une blessure, mais Malcolm Butler qui avait fait sa grosse interception contre les Seahawks, c'était un régulier, un partant, mais c'était pas un joueur connu tant que ça. Fait une grosse interception, propulse sa carrière, t'sais, gros contrat. Bon, ça a pas duré si longtemps que ça après, mais t'sais, c'est le match où est-ce que tout le monde regarde, t'as l'opportunité. Écoute, ça prend juste un bon jeu ou t'sais, faut que tu te lèves au bon moment.
Ouais, exact. Et tu sais, je veux dire, le remplaçant de Joe Tooney, Nick Allegherty, qui fait extrêmement bien, c'est un remplaçant de grande qualité. Mais c'est dur de battre les Chiefs quand les Chiefs décident de passer la balle parce que Mahomes va bouger. Donc même si t'as un joueur sur la ligne à l'attaque qui est un peu moins capable de faire quelque chose d'intéressant, tu sais, je pense que les Chiefs vont vouloir vraiment continuer à faire un peu le même principe d'éviter les sacs, de faire bouger Mahomes, d'étendre les jeux pour que certains joueurs se libèrent. Écoute, il y a eu une autre controverse, je sais pas si t'as vu ça aussi, là, je pense que c'est George Kittle qui a dit, ou un des joueurs de ligne à l'attaque qui a dit que les Chiefs étaient les pros pour aller chercher, pour faire des holdings, des
retenues. C'est Nick Bosa qui a dit ça,
exact. Ouais. C'était la ligne à l'attaque qui retenait le plus, mais qu'on collait pas vraiment, là. Donc, je sais pas si ça, moi je trouve que, on en a parlé avec Justin Tucker, c'était la même chose durant le match contre les Ravens qui allait narguer un peu les Chiefs. Moi, je trouve que d'aller piquer un peu la bête, là, d'aller piquer l'ours là, en hibernation, là, tellement pas une bonne idée.
Je sais pas si c'est la bonne stratégie. Ouais,
si tu le réveilles, l'ours, là, je veux dire, ça se peut qu'il t'attaque. Là. Je veux dire, si t'attaques et que t'es sans défense, tu peux faire grand-chose. Donc, je trouve que c'est une tactique un peu bizarre. T'sais, les Chiefs se voient déjà dans cette espèce de mode-là de on est les négligés, on aime ça être les méchants, on aime ça être les négligés, on aime ça arriver, puis tout le monde nous aime pas, personne veut qu'on gagne, mais nous on gagne pareil. Donc tu sais, de ramener un peu ce phénomène-là avec Nick Bosa qui va aller dire ça, je sais pas pourquoi il y a de ça. Honnêtement, j'ai de la misère à comprendre, mais
je sais pas si tu te rappelles du clip là, de l'entraîneur, je pense que c'était de la Tchéquie ou de la Suisse là, au championnat junior mondial, qui avait dit on peut pas battre le Canada, ils sont trop forts, on peut pas. T'sais. Bon, je dis pas aux joueurs des Niners de faire ça parce que t'sais, c'était la meilleure équipe de la NFL, mais c'est ça, on le voit à répétition, les équipes essaient d'aller piquer les Chiefs. Écoute, un carrière comme Mahomes, des gars qui sont allés au Super Bowl souvent, du succès en séries éliminatoires, j'irais être un mollo sur le trash talk, mais bon, écoute.
Si je faisais les Chiefs, on s'en cache même plus, là, Kelsey a dit ça, on continue à parler de ça, puis je sais pas, je trouve que c'est une façon de faire qui est un peu spéciale, donc je sais pas si ça va donner encore plus de motivation à cette ligne à l'attaque là, mais tu sais, si ça en donne plus, je suis plus dans la mentalité que ne va pas nourrir la bête là. T'as la capacité de pas le faire, fais-le pas là. Tu te retrouves dans cette position là, fais juste faire attention à ce que tu dis. Je veux dire, en tout cas, c'est assez spécial ce genre de mentalité là du côté des Ravens, du côté des Niners. Ça a pas marché pour les Ravens là d'être dans ce mode-là. Je pense pas que ça a des chances de marcher pour les 49ers. Tu sais, là, on parle pas beaucoup de beaucoup de choses qui sont arrivées. Là, ça peut ne pas faire de différence, mais encore là, je pense que les Chiefs doivent garder ça en tête. Puis on est dans la même mentalité, je pense, du côté des Chiefs. On veut gagner, puis on veut gagner en étant les négligés, en étant les méchants. C'est une mentalité qui semble vraiment plaire à Kelsey et à Mahomes. On verra si ça peut faire la différence dans le match.
C'est assez surprenant. T'as un gars qui a déjà deux Super Bowls.
Ouais.
Les Chiefs, on les attend à chaque année comme une équipe à battre. Et selon les paris sportifs, ils sont négligés. C'est rare. T'sais, on disait souvent, parie pas contre Tom Brady, ça va te faire mal.
T'as fait ça.
J'adopte un peu maintenant la même mentalité avec les Chiefs. Pourtant, c'est pas la la tangente, on dirait, qui s'installe.
Ouais, mais je pense que t'sais, ça n'a aucun rapport avec les odds, mais les gens aiment pas les équipes qui ont du succès longtemps. Là, les Chiefs, ça fait 6 ans qu'ils sont excellents. Je pense qu'on est... Bon, ça serait le fun que notre équipe se rende puis notre équipe fasse le spectacle. Donc, on est comme... Bon, puis, tu sais, je pense que tout ce qui entoure les Chiefs, c'est la femme de Mahomes qui a été dans des controverses, Taylor Swift, tu sais, le frère de Mahomes. Tu sais, il y a plein de choses qui font que les gens l'aiment pas. Le père de Mahomes qui se fait arrêter par la police. Ouais. Donc, tu sais, je pense qu'il y a plein de choses qui font... Ah, les Mahomes, les Chiefs, puis capables de les entendre parler, des voir au Super Bowl. Donc, mais je pense que c'est ça. Je pense que Mahomes adore cette position-là. Je pense que ce qu'il veut, c'est ça. Il se nourrit de ça depuis le début des séries. Je dirais même, il se nourrit de ça depuis la saison. Depuis qu'on dit, ah, cette équipe-là est finie, sans receveur, sans Tyreek Hill, on peut rien faire. Et je pense que Mahomes s'est nourri de ça durant toute la saison en disant, non, on va se retrouver en série. On va être capable de faire les bonnes choses au bon moment. Finalement, c'est lui qui a raison pour l'instant. On verra si quelqu'un peut aller le faire mentir durant le Super Bowl. Mais s'il y a une équipe qui peut le faire, c'est probablement les 49ers, une bonne défense, une bonne attaque. C'est un bon spectacle qui s'annonce. C'est deux équipes en plus qui se connaissent bien. Il n'y a pas beaucoup de joueurs. C'est pas une équipe qui est complètement différente. Là, c'est deux équipes qui sont très similaires à ce qu'on a vu avant. Oui, il y a certaines substitutions, des joueurs qui se sont améliorés, qui ont pris la place de d'autres, mais c'est des équipes qui se connaissent, des équipes qui sont déjà vues dans le passé, qui sont vues au Super Bowl. On a tous vu le clip là, de George Kittle qui dit je vais être de retour, je vais gagner, je veux revenir ici. Ben écoute, il va avoir une chance, il y a une chance contre la même équipe en plus, donc on verra comment cet esprit de vengeance là va se concrétiser, mais écoute, j'ai hâte de voir.
Ouais, mais on en avait parlé la semaine dernière, je pense que les Chiefs vont gagner, mon cœur est avec les Chiefs, je vais prendre pour eux, mais aujourd'hui, j'ai vu quelque chose, Christian McCaffrey, son père a gagné 3 Super Bowls et les 3 avec le père de Kyle Shanahan, Mike Shanahan, qui était son entraîneur. Donc, les deux gars dimanche auront l'occasion de gagner leur premier Super Bowl ensemble, alors que leurs deux pères l'ont fait 3 fois. Honnêtement, c'est une belle histoire. Ça donne envie. Je pense que je vais prendre pour les Chiefs quand même, mais j'ai pas, ce ne sont pas mes deux équipes préférées, là. Donc, j'avais pas de course dans de cheval dans la course dès le départ. Ça donne envie, je pense, de prendre pour les Niners, ouais.
Mais j'ai hâte de voir, parce que, tu sais, on s'est fait ouvrir par les Lions pendant une demi complète. Si on joue de cette façon-là contre les Chiefs, j'ai de la misère à voir les Chiefs ne pas marquer de points. Je pense pas qu'on va jouer comme ça. Je pense qu'on va sortir beaucoup meilleur. Mais si on est pour avoir des séquences comme ça difficiles, parce qu'on n'est pas capable d'arrêter une équipe, tu sais, les Chiefs, si on marque plus que 20-25 points, c'est dur d'en marquer autant contre cette défensive-là, même si on a des blessures. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir si ça va faire une différence. Mais si jamais les Chiefs sont pour en marquer 30, en marquer 35, c'est dur d'en marquer autant contre les Chiefs, c'est dur d'en marquer 20-25 contre les Chiefs, donc on va avoir besoin d'une performance parfaite du côté de la défensive, c'est surtout ça, là. Je pense qu'on a besoin d'une défensive qui va vraiment éviter que les Chiefs prennent les devants rapidement, on va devoir mettre notre rythme rapidement du côté des Niners, parce que les Chiefs, quand on met notre rythme, quand on prend l'avance dans le match et qu'on décide d'aller avec le rythme qu'on veut, ça fait une différence, et si les Niners sont pas capables d'imprégner leur propre rythme, de prendre l'avantage, ça va faire mal à cette équipe-là, donc on verra. Si les Niners peuvent prendre les devants rapidement, ben ça peut faire une différence.
Écoute, en finissant, est-ce que tu gardes ta prédiction que tu avais sur le score de la semaine dernière?
Oui, je me rappelle même pas c'est quoi. Je sais pas si tu t'en rappelles.
Je me rappelle plus de la mienne, je me rappelle plus de la tienne, mais je pense que l'important.
27, 21, 27.
On était tout autour de ça.
Ouais, je pense que. Non, je garde ça, puis écoute, je peux pas aller contre mon cœur. Ça serait une terrible affaire d'aller faire ça, mais non, je pense que j'y crois encore. Je pense que ça va être un match intéressant pour chacune des équipes, puis honnêtement, je veux qu'on aille le meilleur match possible. Si c'est une démolition, peu importe c'est de quel côté. Si les Chiefs gagnent ce game-là 40-0, ça va être plate un peu pour tout le monde. J'espère un match serré, honnêtement. J'espère que les Chiefs, évidemment, sortent du lot, mais ça peut avoir un match intéressant où est-ce qu'on n'est pas tous couchés à 8h30.
Ça pourrait être le fun. Écoute, avec l'application Snapchat, là, ceux qui l'ont le sauront. Ils envoient des souvenirs, là, des vidéos qu'on a prises il y a quelques années. Puis là, dernièrement, avec les séries éliminatoires, je recevais des vidéos qui datent de quelques années de Victor qui célèbre les victoires des Chiefs.
J'en ai trouvé un en plus. Ma soeur me filmait. J'en ai trouvé un pendant les séries cette année quand Pacheco fait une course contre les Bills. Donc, non, mais écoute, c'est tout le temps un spectacle, me voir à regarder le match des Chiefs. Mais ouais.
Je te souhaite le même bonheur pour dimanche prochain. Sur ça, on va faire une courte pause et au retour, Liam va être là pour nous parler de basket. Tantôt.
Écoute locale avec Cheese 94.3.
M'a te parlé une autre bière, Jacques.
Ah, y a d'autres choses à faire dans la vie que de boire la bière, Éloi.
Ben non, il se passe jamais rien dans la vie, c'est full plate.
Hey, ça paraît que t'écoutes pas à l'antenne sur Shiz. Depuis que j'écoute ça, je connais non seulement toutes les nouveautés au Trident, mais aussi la moyenne au bâton de Mark Goodzelanek en 99, toutes les potins de la rue Saint-Jean, puis en plus, il y avait toutes sortes d'autres mondes, parler plein d'autres affaires.
Ben coudon, c'est jeudi de 13h à 14h en plus.
Sur les ondes de Shiz, 94.3.
Allô Patrick, comment ça va?
Ben ça va bien toi?
Ah, pas très bien. On dirait que je sais pas quoi écouter comme musique.
Ah ouais, ben je suis ça pour toi. Écoute Le Monde de Ricassono, c'est vraiment bon. Il y a plein de musique qui va te remonter le moral.
Ah oui? Qu'est-ce que c'est?
Ben il y a plein de nouveautés de tous les styles musicaux, comme la musique anglophone, francophone, autochtone. Il y a même la musique punk et metal.
Ah ouais?
Et en plus, c'est vraiment cool. Il y a la musique New Country, rap, reggaeton, EDM Club, sans oublier découvertes internationales, ainsi que la réaction forte de la semaine.
Ben là, les fans de musique, réveillez-vous! À quel endroit on peut retrouver ça?
Tous les dimanches, entre 19h à 20h30, à Chiz 94.3.
C'est de rendez-vous!
Passe devant, c'est bien fait! Le tir est le bon!
Les Remparts de Québec visitent le Phoenix de Sherbrooke ce vendredi 9 février à 19h. Rejoignez Ray Cloutier sur nos ondes dès 18h45 pour l'avant-match. Remparts Phoenix, vendredi à 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
Le Mois Multi, festival international d'art multidisciplinaire et électronique, célèbre son 25e anniversaire. Performances, spectacles, expositions, ateliers et activités vous attendent du 1er au 25 février au cœur de la ville de Québec. Joignez-vous à la fête et consultez la programmation complète au moismulti.org.
Allô chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter de nouveau le message, appuyez sur le 1.
Allô chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter de nouveau le...
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter...
Allô, chérie, je m'en viens.
Quand on perd quelqu'un, la première chose qu'on oublie, c'est sa voix. Avec votre aide, nous pouvons empêcher que d'autres vies soient réduites au silence. Au volant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de victimes. Pour en savoir plus, consultez mad.ca.
Re-bienvenue sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutez Conduite Antisportive. Je suis accompagné de Liam Hood, rédacteur en chef de Aléo 360. Comment ça va, Liam?
Ça va très bien. Merci de l'invitation, Charles.
Ben oui, ça fait plaisir de se voir en vrai. Ça fait déjà presque un an et demi qu'on travaille ensemble avec Aléo 360. Mais là, puis on se texte, on s'était fait une couple de FaceTime. Mais là, de se voir en vrai pour parler de basket, je suis très heureux de ça.
Très, très heureux. On s'était vu une fois seulement, je pense, pour un échange de t-shirts.
Un échange de t-shirts. Écoute, vite fait, là, si tu veux nous expliquer un peu qu'est-ce qu'Aléo 360 en quelques mots.
Ben, vite fait, pour les partisans de basket à travers la province, c'est la source francophone de nouvelles, tu sais, de faits saillants, statistiques. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, mon Twitter X, là, pour ceux qui ont eu la mise à jour, là. Puis je vous dirais que il n'y a pas grand monde qui fait un travail aussi assidu en français au Québec, même pour ce qui est du basket francophone en Amérique du Nord. On se situe pas mal seul un peu dans un trou qu'on a essayé de combler. Oui, il y a RDS et d'autres réseaux, mais qui se dédient à 100% au basket, qui sont des passionnés de rédaction, des passionnés de ce sport-là. On est les seuls, puis Charles, tu fais partie intégrante de cette équipe-là, on pourrait pas faire ce qu'on fait sans toi. Très fier aussi de l'amélioration là, depuis que tu es arrivé. Vraiment un morceau important de l'équipe, puis il connaît son basket, notre Charles.
Écoute, ben merci pour les bons mots. Je suis vraiment excité de parler de basket avec toi. Ton savoir est infini. Écoute, c'était la date limite des transactions hier. Ça l'a bougé beaucoup. Un peu moins du côté de Toronto, mais Toronto a fait ses transactions un peu avant. Quatre échanges dans les dernières six dernières semaines. Qu'est-ce que tu penses un peu des mouvements là, des Raptors?
Ben vite fait, je te dirais que la direction est finalement claire. Au départ, on n'avait pas vraiment de plan concret, si on parle des dernières années, parce qu'on essayait de gagner avec le noyau que plusieurs d'entre vous vont connaître. Pascal Siakam, Fred Van Vliet, il y avait OG Anunoby aussi là-dedans. Puis ben, on a finalement fait une décision nette de rebâtir. On veut construire autour de Scotty Barnes, la nouvelle vedette de l'équipe repêchée en 2021, qui a gagné recrue de l'année d'ailleurs. Puis tu sais, c'est un jeune au potentiel incroyable. Il a tellement de talent. Il a un impact à tous les niveaux du basketball, autant en défense qu'en attaque, au rebond, avec la passe. Puis bon, c'est sûr que c'est notre vedette du futur. Dans combien d'années est-ce qu'on va être compétitif à nouveau? Ça, c'est plus difficile à dire, mais on sait que il y a d'autres morceaux qui ont été ajoutés autour de ça, justement au travers des transactions qui ont laissé partir des favoris de la foule quand même. Anunoby, Siakam, Van Vliet est parti durant la saison morte en tant qu'agent libre. Puis on a quand même réussi à avoir un bon retour en Emmanuel Quickley, justement, petit point guard des Knicks. Il y a aussi RJ Barrett, canadien, qui s'est amené à Toronto. Donc, tu sais, la sauce est là, faut juste qu'elle prenne. Il y a du bon potentiel pour le futur, mais présentement, on est 12e dans la conférence de l'Est. Rien d'extraordinaire pour cette année. Faut s'armer de patience avec le futur, je pense, pour les Raptors.
Ouais, c'est ça. Puis je sais pas si tu dois t'en rappeler, là, quand l'entraîneur-chef, là, Darko, avait promis un souper à son équipe après 3 victoires de suite. Je pense pas que c'est encore arrivé. Je pense pas qu'il a sorti son portefeuille à date cette saison.
C'est pas arrivé. Tant mieux pour son portefeuille.
Là. Ouais, écoute. D'ailleurs, je m'en allais pas là, mais on va en parler, l'entraîneur. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Moi, je trouve que j'avais justement écrit un article là, à son arrivée avec sa conférence de presse. J'avais aimé l'attitude qu'il avait, l'énergie qu'il amenait. Qu'est-ce que tu penses, même s'il connaît pas beaucoup de succès, tu sais, côté victoire, qu'est-ce qu'il peut apporter aux Raptors de Toronto?
Mais à la base, c'est un gars qui avait un parcours de développement de joueurs. C'est pour ça qu'on l'a apporté. Donc, c'était un signe un peu. C'était évident lorsque Masai Ujiri, le président de l'équipe, a décidé d'engager Rajakovic au lieu de Nick Nurse, en laissant partir Nick Nurse, je devrais dire. C'était évident que, bon, on allait sûrement prendre un petit virage jeunesse. Puis c'est pour cette raison-là qu'il est ici à Toronto, développer Scotty Barnes. On l'a vu, il défend ses joueurs. Hein. Il y a eu une sortie dans les médias une fois où les Lakers avaient un nombre exorbitant de lancers francs au quatrième quart, tandis que les Raptors en avaient seulement que lancé 3 ou 2, je pense.
Ouais, je pense que c'était 22 pour 3 du côté des Raptors.
C'est ça. Quelque chose de ridicule à ses yeux, puis aux yeux des partisans des Raptors. Il est allé à la défense de ses joueurs. Il a dit ouvertement, en utilisant un peu de profanité, là, mais ça a été assez clair comme message qu'il voulait aller à la défense de ses jeunes joueurs, notamment en complimentant Scotty Barnes au passage. Il a dit que c'était pour être un des visages de la NBA plus tard, que c'était pour être un All-Star. Ça s'est concrétisé. Scotty sera All-Star cette année. Mais Darko est là pour cette raison-là. Puis je crois que malgré les résultats, on va être patient, on va attendre de voir dans quelques années à quoi ça ressemble, parce que c'est son talent. Puis déjà, c'est visible notamment dans le jeu de Scottie Barnes, qui est hautement amélioré face à 2022, 2023, puis l'année précédente.
Ouais, c'est vraiment excitant de le voir jouer, puis t'en parlais, il affecte tout sur le terrain. Aussi, Grady Dick, leur choix 13e, je pense, au total, au dernier repêchage, qui connaît une saison un peu difficile, mais ça m'avait marqué. Ils l'ont envoyé comme en bootcamp, un peu, dans la G-League. J'avais jamais entendu une organisation mentionner un petit séjour dans la G-League comme ça. Là, il est de retour dans la NBA. Personnellement, j'aime beaucoup l'approche des Raptors. Puis tu parlais de... Maintenant, la direction est claire. On sait pas quand est-ce qu'ils vont être bons, mais je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Là.
Je crois que Grady Dick va devoir faire partie, justement, de ce noyau-là duquel on parle. C'est sûr que 13e, t'aurais aimé avoir un meilleur rapport plus tôt de sa part à lui, mais il faut pas s'attendre non plus à la lune. Puis au moins, on n'a pas repêché un style... C'est qui que les Lakers ont repêché là, quelques rondes après qui était dans les discussions pour les Raptors? Le nom ne vient pas exactement, c'est...
Je suis pas certain de qui tu parles.
Non, c'est pas grave.
Si ça te revient, tu nous le diras.
Ouais, ça va peut-être me revenir. Mais sinon, tu sais, il y avait aussi d'autres noms intéressants qui nous font peut-être un peu regretter ce choix-là, dont Jaime Jaquez Jr., qui lui est tout feu tout flamme pour le Heat, sans faire de jeu de mots, recrue, qui avait passé un peu plus longtemps à l'université, mais qui démontre que tout de suite est capable de jouer sur des terrains NBA avec des gros gars, avec des gars plus intelligents. J'aurais peut-être préféré que Jaquez soit repêché par les Raptors. Ça aurait été un bon morceau. Mais dès qu'il faut être patient, encore une fois, je crois que c'est le mot d'ordre un peu avec les Raptors, être patient, puis essayer de voir ici et là le petit silver lining, c'est-à-dire les petites pépites qui nous font sourire pour le futur. Puis le jeu de Scottie Barnes, on en parle depuis tantôt, mais c'est exactement ça. C'est vraiment quelque chose qui nous réjouit en tant que partisans des Raptors.
Puis je pense qu'il peut amener aussi, complémenter l'alignement de Toronto, Scottie Barnes, RJ Barrett. C'est pas nécessairement des gars qui tirent du 3 points avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Grady Dick, je pense qu'il peut amener ça.
C'est son talent, c'est ça.
Exact.
C'est pour ça qu'on l'a apporté, ouais.
Ouais, ouais. Je sais pas que si tu penses, si on les prend un par un, qu'est-ce que tu penses du premier échange là, avec RJ Barrett et Quickly?
Donc, tout de suite, RJ Barrett a fait les manchettes, mais je crois que le meilleur élément dans cette transaction-là, c'est sans doute Quickly, un point guard qui est âgé, je crois, de 24 ans à ce moment-ci, si je ne me trompe pas.
Ouais, RJ a 23, puis Quickly a 24. C'est ça. Ou le contraire, mais...
Je suis pas mal sûr qu'on l'a, puis Quickly, c'est le parfait complément à Barnes en tant que manieur de ballon qui peut créé pour autrui. C'est un fabricant de jeu qui aussi s'est marqué à tous les niveaux. Son floater est exceptionnel. Il a un beau tir à trois points, capable de vraiment bouger sans le ballon aussi. Tous des atouts qu'on recherche chez un jeune meneur en voie de s'améliorer. T'sais, on regarde un profil similaire. Tyrese Maxey chez les 76ers de Philadelphie, lui aussi participera à son premier match chez les Étoiles. C'est un gars qui avait les mêmes atouts ou presque, mais je crois que Quickly est un meilleur défenseur encore que Maxey. Puis je vois le potentiel offensif, le plafond, si tu veux, là, au même endroit que Maxey. Donc je vois en Quickly, je vois un joueur All-Star du futur. Est-ce que ça va être l'année prochaine? Peut-être pas, mais le bon s'en vient, j'en suis certain. À New York, c'était plus un sixième homme. Il était dans la course justement pour le titre de sixième homme de l'année l'an dernier. Il était pour l'être cette année avant d'être échangé à Toronto, où là, c'est un titulaire à juste titre.
Ouais, puis on l'a vu avec Maxey, ça l'a décollé quand Harden est parti, puis il y a eu l'opportunité. Je pense que c'est ça que Quickly va avoir à Toronto. Du côté, moi aussi, je suis d'accord avec toi que je pense que c'est un bon échange, puis Quickly est probablement la pièce maîtresse là, de cette transaction-là.
Puis les Knicks sont contents aussi de ce qu'ils ont eu.
Oui, mais oui, avec Anunoby, je pense que c'est le fit parfait. Un défenseur pour accompagner leurs deux stars offensives. On en parlait avant d'entrer en onde, comment les Knicks font partie des gagnants de la date limite des transactions. Je trouve qu'ils ont mis sur pied un alignement qui peut leur permettre d'aller loin en séries éliminatoires.
Puis OG, ça va être une partie intégrante de ça. Il est blessé au coude présentement, mais va revenir au jeu sous peu. Puis c'est ridicule, la cote plus ou moins, le plus-minus qu'on utilise souvent. Lorsqu'il est arrivé au Knicks, si je ne me trompe pas, à travers ses 5 premiers matchs, c'était plus 111. Puis ça ne faisait qu'augmenter. Je crois qu'il était, après 12 matchs, dans les plus 120 sur le terrain pour les Knicks. Du jamais vu, littéralement, là, c'était un record. Puis OG a tellement un impact qui ne saute pas toujours aux yeux, mais lorsqu'on regarde les statistiques avancées, son efficacité au tir à trois points, c'est un des meilleurs tireurs du coin. Sa défensive, là, qui est subtile parfois, mais parmi les meilleurs des meilleurs de la NBA. OG, c'est un atout qui, à Toronto, peut-être était un peu dans l'ombre parce qu'il y avait tellement d'autres ailiers de 6 pieds 9.
Ouais,
c'est juste ça qu'on avait presque. T'sais, il était un peu dans l'ombre de Siakam, mais à New York, il vient remplir un rôle qu'il n'y avait pas. T'sais, un peu combler un trou, joueur idéal à New York. Puis ils ont vraiment effectivement fait des bons moves là, de ce côté-là. J'ai bien peur que les Knicks pourraient se rendre en finale de conférence et qui s'est rendu là.
Ouais, exact. On l'a vu avec le Heat, justement, que personne ne les attendait vraiment. Puis je pense que cet échange-là, c'est rare, je trouve, dans le monde du sport. On le mentionne souvent, mais je pense que c'est rare que c'est gagnant-gagnant. Mais je pense que ça pourrait être un des échanges que ça l'est pour vrai. Ces deux équipes sont allées combler des besoins. Est-ce que tu partages mon opinion, par contre, qu'avec l'échange de Siakam, est-ce que tu restes un peu sur ta faim ou...
100%. Je crois que c'est bien dit. Là. C'est rester sur sa faim, surtout pour les partisans. Mais encore là, il va falloir être patient parce que les choix au repêchage qu'on est allé chercher, on ne sait pas encore en quoi ils vont se transformer. Puis de toute façon, Siakam, lui aussi, c'était un contrat qui arrivait à échéance. Puis au départ, il ne voulait pas nécessairement re-signer ailleurs qu'à Toronto. Mais Toronto, eux, ne voulaient pas lui offrir l'argent qu'il nécessitait, qu'il voulait, c'est-à-dire un contrat Supermax. C'est un gars qui s'est mérité des mentions All-NBA dans sa carrière, qui est éligible au Supermax. Mais il y a eu des négociations probablement illégales, là, du tampering, avant que la transaction ait lieu, pour faire en sorte que Siakam soit OK, d'accord, d'aller en Indiana puis de re-signer là cet été. Reste à voir à quel chiffre. Mais bon, c'est un parfait complément, lui aussi, du côté de Tyrese Haliburton, leur point guard là, chez les Pacers. Mais pour revenir à ta question vite fait, là, je me demande effectivement si on n'aurait pas pu aller chercher plus. Mais je crois que l'an dernier, à la date limite, on s'était fait un peu teaser en tant que fan des Raptors. On s'était fait dire à travers plusieurs rumeurs que Siakam était sur le point de partir. Peut-être que sa valeur aurait été meilleure à ce moment-là. Peut-être qu'on aurait dû l'échanger là-bas. Je ne sais pas si les offres que Masai Ujiri a obtenues l'an dernier étaient meilleures que celles d'aujourd'hui. Mais bon, c'est Bruce Brown qu'on a eu en retour. 3 choix de premier tour, si je ne me trompe pas. Puis là, il faudrait que je vérifie exactement toutes les modalités. Là, mais c'est pas super excitant quand tu regardes l'alignement en reconstruction des Raptors. Mais toi, t'en as pensé quoi, vite fait?
Ouais, moi aussi, c'est plus facile de dire après, mais je l'aurais changé l'année dernière. Ou peut-être même encore plus tôt, sachant que c'était un peu vers là. On dirait que l'organisation refusait un peu de se l'avouer que les Raptors s'en allaient en reconstruction, mais qu'on dirait que tout le monde le voyait venir. Je pense qu'ils ont attendu un peu trop, mais bon, là... Est-ce que c'était des rumeurs? Est-ce qu'il y avait vraiment des offres concrètes ou c'était juste des pourparlers? Mais tu sais, pour un Siakam, après ça dépend si t'es prêt à lui donner l'argent qu'il veut, mais j'ai écrit un article sur son départ, la lettre qu'il a faite, là, qui est écrite dans le Players Tribute, il aimait Toronto. Là. Si l'argent était là, je pense qu'il serait resté.
Mm-hmm. Là, tu te donnes un plafond en ayant Siakam comme ton meilleur joueur. C'est ton joueur le mieux payé, inévitablement. Ouais. Le plafond, tu ne te rentreras probablement pas en finale de la NBA.
Non, comme avec meilleur joueur, c'est ça l'affaire. Mais est-ce que tu es capable de faire une run pendant que parce qu'on est bon, tu coûtes moins cher, mais là, après ça, tu sais, quand il va demander le max, lui aussi, en tout cas, c'est une situation complexe. Je l'aurais échangé, mais probablement l'année dernière. Puis pour les deux derniers échanges, là, on peut un peu les mettre ensemble. Tu sais, c'est des échanges mineurs avec Kelly Oubre qui s'amène. Pas Kelly Oubre, Kelly Olynyk. Et Dennis Schroeder qui part aussi du côté de New York. Je pense que ça, il voulait. Ça faisait un bout qu'on le savait, là, qu'il voulait un peu être leader dans une équipe. On lui donne ce qu'il veut. Dinwiddie s'amène, mais finalement, bon, ils vont le libérer ou ils l'ont déjà fait.
Ouais.
C'est ça, c'est assez mineur, je pense.
C'est
une transaction.
C'est sûr que c'est le fun de voir un autre Canadien débarquer à Toronto en Kelly Olynyk. C'est une réunion un peu entre lui et son collègue de l'équipe nationale. T'en avais parlé justement dans ton article, c'est tout fait. Ouais. Puis...
Sous recommandation de Liam.
Mais c'est le fun de voir ça. T'sais, après, on se demande est-ce qu'on va pouvoir attirer d'autres joueurs de l'équipe canadienne? T'sais, une équipe qui a gagné la médaille de bronze quand même à la Coupe du Monde, la FIBA, cet été. Mais je crois qu'Olynyk risque malheureusement de partir à l'été. Son contrôle aussi arrive à échéance. Puis là, t'as Ochai Agbaji, peut-être plus intéressant. Jeune shooting guard qui est arrivé en provenance de l'Utah, lui aussi. C'est la transaction qu'on a effectuée. On a peut-être envoyé, un peu cher comme prix en un choix de premier tour, mais c'est un choix qui va probablement être en fin de premier tour cette année, 2024. Ça n'a pas une extrême valeur. Puis après ça, les Raptors, bon, ils ont d'autres choix cette année. Fait que c'est pas non plus le plus gros repêchage. J'ai pas tous les détails, mais il n'y a pas l'air d'avoir énormément de joueurs, mais quand même pas pire profondeur. Puis après ça, tu sais, Ochak Badjie, ça peut être une pièce intéressante. Sinon, c'est pas mal tout ce qu'on a fait là, à la date limite, le jour même. Ça a été une journée peut-être un peu décevante.
Il n'y a pas eu de gros ouais. mouvements, là, mais ça a bougé c'est quand ça. Même malgré tout dans l'ensemble du circuit. Est-ce que, selon toi, il y a des gagnants, des perdants de cette journée-là?
Et tout de suite, je pense aux Knicks, je pense aux Mavericks de Dallas, deux gagnants. Si on parle de perdants, bon, les équipes qui... sont allés chercher... En fait, qui ont fait des petites ventes de feu. Les Hornets de Charlotte, c'est le cas. Les Pistons de Détroit aussi. Mais pour les Knicks, vite fait, là, on en parlait tantôt du fait qu'ils seraient peut-être même un prétendant pour la couronne dans l'Est. Ils sont allés chercher des vétérans qui vont les aider sur leur banc, mais peut-être même dans l'alignement partant. Là, il y a Bojan Bogdanović et Alec Burks qui sont venus en provenance des Pistons. Puis je suis content pour eux qui n'ont pas eu à donner trop en retour. Aucun choix au premier tour. Et que là, on reste armé de nos choix de premier tour qui sont très nombreux de ce côté-là, là, à New York. Puis en même temps, Quentin Grimes n'était plus dans la rotation. On a dû lui dire au revoir, mais Tom Thibodeau lui donnait pas beaucoup de temps de jeu. C'est un shooting guard qui s'est tiré de l'extérieur, quand même athlétique. Puis il jouait plus beaucoup de minutes. C'était une des raisons pourquoi il voulait partir. Après ça, t'as deux vétérans qui viennent t'aider tout de suite pour peut-être un long parcours éliminatoire, on verra. Puis c'est deux gars qui peuvent défendre à un haut niveau. Ils ont de l'expérience en masse, qui peuvent quand même produire offensivement. On est tellement profond. Là. Je crois que les Knicks rivalisent avec les équipes avec les meilleurs bancs dans la NBA. Ça, c'est sans aucune question.
Ça va être un peu compliqué. L'Est est quand même fort, mais on va voir aussi avec la blessure de Embiid comment ça affecte les Sixers. Je pense que ça va être compliqué de voir... De battre Boston, qui sont bâtis, je pense, pour aller loin. Là. Mais, tu sais, on voit à Milwaukee, ils ont congédié leur entraîneur-chef alors qu'ils étaient deuxième dans l'Est. Ça a été un peu plus compliqué dans les dernières années en séries éliminatoires depuis leur championnat. Cleveland, ben, comme, honnêtement, j'ai pas ça du tout, les Knicks, leur potentiel de faire du chemin. Sinon, dans l'Ouest, t'as bien aimé les mouvements des Mavericks.
Ouais, si on a à dire les grandes lignes, c'est PJ Washington et Daniel Gafford qui s'amènent un power forward puis un centre. En retour, Grant Williams est parti, mais il n'avait jamais apporté grand-chose dans l'effectif des Mavs. Après ça, eux aussi, j'aime bien le fait qu'on n'a même pas eu à se départir de choix de premier tour. Tu vas m'entendre peut-être le répéter souvent, mais je crois que c'est important. T'sais, si on réussit à s'améliorer en marge sans avoir à trop donner... Puis les Mavericks, c'est ce qu'ils ont fait. PJ Washington, c'est un ailier fort partant dans l'NBA. Ça, j'ai aucune question là-dessus. Daniel Gafford va rester à voir s'il va prendre la place à Derek Lively Jr., notre recrue. Derek Lively 2, j'aimerais dire. Là. Notre recrue qui est arrivé récemment, qui a, comme gars de 7 pieds, fait un travail phénoménal au rebond. C'est une bonne cible pour les alley-oops de Luka. Daniel Gafford apporte un peu la même chose. C'est en même temps un substitut pour un joueur qu'on a déjà. Ils sont peut-être très similaires les deux, mais en cas de blessure, bon, on a un peu un filet de sécurité. Gafford peut aussi finir des alley-oops, joue en verticalité beaucoup. Les Mavericks, c'est difficile dans l'Ouest. Là. Justement, on regarde les classements. Là. Difficile à dire s'ils vont être capables d'aller conquérir une des six premières places, là, six premières têtes de série qui donnent accès automatiquement aux éliminatoires. J'ai mes doutes, là, mais c'est une équipe qui, avec Luka Doncic, peut faire ce qu'elle veut. Luka, il peut être le meilleur joueur sur un terrain dans n'importe quelle série. Là.
Ouais, puis c'est un peu à cause de leur position sur le terrain, je pense, qu'il n'est pas aussi haut dans les discussions de MVP. Là, toujours dans le top 5 ou autour au moins, mais...
Ouais.
Mais c'est parce que là, ils sont 8e actuellement, mais connaissent une autre excellente saison.
Il est ridicule.
Ouais, c'est incroyable de voir jouer.
35 points de moyenne.
Ouais, puis il fait ça à chaque année. Puis ça améliore encore. Tu me parlais aussi pendant la pause de OKC qui sont allés chercher Gordon Hayward. J'adore déjà leur équipe. Puis comme toi, je partage ton opinion. Je pense qu'ils viennent d'aller chercher une pièce qui peut les aider aussi là, pour le reste de la saison.
Ah oui. Alors, j'adore OKC aussi. On aime le Canadien chez Yuldjus Alexander, évidemment. Il y a un top 4 un peu dans l'Ouest. Là. C'est difficile à les départager. Ils s'échangent souvent la première place. Bon, OKC l'a tenu pendant un petit bout. Puis là, Gordon Hayward, vétéran aussi, il n'est plus dans la fleur de l'âge, mais il s'amène avec un historique de blessures moins important récemment. Fait que tant mieux, lui qui en a connu beaucoup dans sa carrière. On ne sait pas s'il va être partant nécessairement. T'sais, c'est un ailier. Est-ce qu'on laisse Lugansdor, le Québécois, sur le banc ou peut-être Josh Giddey? aux dépens d'une insertion de Hayward dans l'alignement partant. C'est un gars qui peut venir marquer, mais aussi fabriquer des jeux. Guilly, lui, pourrait être le meneur vraiment de la seconde unité. C'est un passeur exceptionnel. Reste à voir, si on... De toute façon, si ça ne connaît pas vraiment de succès comme move, même chose. OK, si on n'a pas donné un de nos 743 000 choix au choix au repêchage, on a donné deux choix de deuxième tour, par contre, mais aucun choix de premier tour. Hey, on a encore plus de 30 choix dans les 6 prochains repêchages.
Ça va être intéressant de voir comment ils les utilisent, parce qu'ils ont déjà une jeune équipe avec beaucoup de talent. Qui manque, on dirait qu'il manque pas grand-chose à leur alignement. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont en faire.
Selon moi, ce qui leur manque, là, c'est une coupe de cicatrices en série.
Ouais, de l'expérience.
Il faut qu'ils gagnent au moins un tour cette année. Ouais, de l'expérience. Puis Hayward va les aider à faire ça, c'est sûr. Lui aussi, son contrat, bon, ça termine cette année. Est-ce qu'on va le garder? Si on le garde pas, ben écoute, on n'a pas donné tant que ça en retour. Le Trayman, je crois qu'il est parti. Vasily Micic, qui d'autre? Je sais pas les noms. Ah oui, ben ils sont ici. Davis Bertans aussi, qui amenait presque plus rien. C'est un franc-tireur qui réussissait pas ses tirs, ça va mal dans ce temps-là. Deux choix de deuxième ronde. That's it. Le Thunder a redouté en série. Peut-être pas, tu sais, un titre imminent, mais avec Shea comme figure de proue à tout ça, man, dans deux ans, il va falloir absolument faire attention à eux avec Chet Holmgren aussi, je vais le mentionner. Là. On aime beaucoup Chet Holmgren.
Puis j'adore comment ils sont construits avec Shea, avec Lugans Dort, la défense. Puis Chet, lui puis Wembanyama, j'adore ça les voir jouer. C'est un de mes types de joueurs que... préféré. Je trouve que c'est dynamique, c'est le fun. Ils sont impliqués en attaque, en défense. C'est dynamique.
C'est comme dire ma voiture préférée. Moi, c'est la Lamborghini.
Ouais, non, mais j'aime beaucoup aussi les joueurs comme Lonzo Ball ou Ben Simmons là, qui courent en transition, mais eux autres, ils jouent jamais. Fait que je me réconcile en regardant les grands pivots. T'sais, pas très physique, pas très massif, là, mais assez athlétique. J'ai vraiment hâte de voir ce que OKC va faire.
C'est tellement divertissant. Là. S'il y en a qui nous écoutent qui ne regardent pas vraiment le basket,
ça vaut la peine.
Ah ouais, s'il y a le Thunder à la télé, s'il y a les Spurs de San Antonio qui, eux, ont le français Victor Wembanyama à la télé, faut absolument les écouter. C'est du divertissement pur, des vrais extraterrestres sur le terrain. Écoute, plus de 7 pieds chacun, mais Wemby surtout à 7 pieds 4, il a l'air de 7 pieds 5, là, mm-hmm. capable de tout faire, tirer de l'extérieur. Il peut aller bloquer un tir à 3 points d'un côté, compléter un alley-oop de fou de l'autre bord après, sur un même jeu. Wemby, faut le regarder. Chet Holmgren, faut le regarder. Il y a une course très serrée présentement entre les deux, là, à savoir qui va gagner le titre de recrue de l'année. As-tu un choix particulier? Moi, c'est sûr que je l'ai partagé, mais peut-être Wembanyama en ce moment.
Ouais, je pense aussi... je pense que Holmgren est mieux entouré. C'est peut-être un peu plus facile pour lui d'exceller. Fait que je pencherais peut-être du côté de Wembanyama, mais c'est deux de mes joueurs préférés actuellement dans la NBA. Mais je sais pas si tu as vu les statistiques de Wembanyama défensivement, qui sont presque toutes meilleures que la saison que Rudy Gobert a gagné le joueur défensif de l'année. C'est son année recrue. Ça n'a aucun bon sens. Là.
Ah, c'est tout un défenseur. C'est déjà plus de 3 blocs par match. 3, là. En 2024, là, quand on bloque de moins en moins de tirs parce qu'il y a de moins en moins de percées au panier, c'est complètement fou. Après ça, bon, c'est sûr que c'est une recrue, il fait des erreurs défensivement. Pour cette raison-là, il n'y aura pas le titre de recrue de défenseur de l'année, je veux dire. Mais très facilement, on peut se frayer un chemin vers une place sur une équipe all-defensive. Il y en a deux. Je crois que Holmgren et Wemby méritent leur place. Puis moi aussi, je pense que l'argument que tu as donné, c'est le mien aussi. Wemby a moins d'aide. Son équipe est probablement autour de lui, là, à part lui, la pire de la NBA au grand complet. Oui, les Pistons sont horribles, là, mais...
Mais ils n'ont pas un géant de 7 pieds 4 non
c'est
plus.
C'est ça, ils n'ont pas de Wembanyama. Chet, lui, arrive dans une bonne situation. Il aide la situation, il ne faut pas sous-estimer son impact. Mais ses statistiques sont moins intéressantes. Oui, il est plus efficace au tir. Mais défensivement, ça s'équivaut presque. Puis après ça, Wemby, c'est beaucoup plus de points. Il est au-dessus de 20 points par match. Puis je crois qu'historiquement aussi, il faut des fois le considérer quand on est chargé de voter pour quelque chose d'aussi important que ça. Là. Historiquement, si on regarde dans 20 ans, puis on dit « Ah, Wembanyama, il a gagné tant d'affaires, tel titre d'MVP, blablabla. » Mais il n'a pas gagné recrue de l'année parce que Chet Holmgren, il était sur une meilleure équipe. Ça va être dommage.
Ouais, c'est vrai.
Je vois un petit peu ça dans cette optique-là aussi.
J'avais jamais vu comme ça, mais... Oui. Écoute, faut pas que ce soit le seul argument, mais tu sais...
Non, c'est ça.
Pour départager, Puis je pense que très bientôt, là, ça va être deux All-Stars. Justement, là, c'est la semaine dernière, je crois que les All-Stars ont été annoncés, les réservistes, on savait déjà les partants. Écoute, à chaque année, il y a tout le temps des snobs. Finalement, Scotty Barnes n'avait pas été sélectionné au départ. Finalement, prendra la place de Embiid ou Randall. Lui et Scotty Barnes et Trae Young ont été sélectionnés. Je pense que c'est une belle récompense. Je pense qu'il méritait d'être là, définitivement.
Puis là, ils sont allés un peu dans la même direction que la discussion qu'on vient d'avoir sur Wembanyama. Ils ont décidé d'ignorer les victoires, puis ils l'ont donné à un joueur qui individuellement performe à un haut niveau. Ça, c'est Scotty Barnes. Trae Young aussi, jusqu'à un certain point, là, c'est pas la meilleure équipe, les Hawks d'Atlanta cette année. Mais quand tu distribues 10 passes décisives par match, ça fait plusieurs années qu'ils mènent la NBA au chapitre des passes décisives totales dans la saison. Puis Trae Young, c'est un bon marqueur en plus. Peut-être un des pires défenseurs des dernières années, mais offensivement, peut-être top 10. Là. Fait qu'il mérite sa place dans un match des étoiles, justement, où qu'est-ce qu'on veut au match des étoiles? On veut des belles passes, des 3 points. C'est ça, exact. On veut vraiment des faits saillants. C'est une machine à faits saillants. Après ça, il y a toujours des snobs, comme tu le disais, toujours des grands oubliés. Je crois qu'il y en a peut-être plus dans l'Ouest que dans l'Est.
Moi, il y en a deux qui
là.
Me viennent en tête, là, les deux joueurs de Sacramento, Fox et Sabonis. Là,
c'est une tragédie, presque.
Surtout Sabonis, je comprends pas. Comme, tu sais, je regardais justement pour un article, peut-être que c'était un vieil article, mais je checkais les selon un site, là, les favoris au MVP, puis Sabonis était dans la discussion. Je sais pas si c'était top 5 ou dans les mentions spéciales. Mais tu sais, comment un joueur peut être là, mais pas être All-Star?
C'est ça.
Écoute, t'avais une proposition de rajouter des All-Stars que j'aime beaucoup, là, on s'en est parlé tantôt. Mais je pense que ça en prendrait plus de joueurs sur ces listes-là. Là.
Pourquoi pas y aller à 15 joueurs par conférence au lieu du 12 actuel? Oui, il y a des blessés parfois. Là, ça donne la chance à d'autres joueurs d'être remplaçants comme Barnes et Young. Mais il n'y a pas de blessure encore là, annoncée dans l'Ouest. Fait que probablement que oui, ils vont être oubliés, Sabonis, Fox. Il y a aussi Jamal Murray qui fait une belle saison. Il y a Lauri Markkanen, sous-estimé, sous le radar un peu, mais Jazz, man, incroyable comme joueur. C'est dommage. En plus, tu parles de deux gars qui ont été All-NBA l'année passée. Sabonis risque d'être All-NBA à la fin de la saison. Puis il faut.
Les statistiques sont meilleures cette année encore.
Ils sont incroyables, c'est ça. C'est pas le joueur le plus flashy, mais bon passeur, le meilleur rebondeur de la NBA aujourd'hui. Puis un marqueur aussi là, sous le panier, robuste. Donc, il faut probablement être en NBA, puis ça me fait réfléchir un peu, puis je me dis que, bon, All-Star, faut s'y attarder parce que la discussion est agréable, mais je crois aussi que c'est pas à considérer quand on a des discussions là, all-time, mettons, on veut comparer deux joueurs historiques, faut pas l'utiliser comme un argument parce que le vote rentre là-dedans, le fait que les places soient limitées, ça rentre là-dedans. Est-ce qu'il y a juste plus de joueurs qui ont eu des bonnes saisons cette année-là? Kyle Lowry est allé 6 fois au match des étoiles. S'il avait été dans la conférence Ouest, combien de fois tu penses qu'il serait allé?
Ouais, c'est quand tu regardes Damien Lillard qui a pas été si souvent, qui cette année est partant pour la première fois.
Ouais.
Mais quand tu es derrière des gars comme Chris Paul, Curry et compagnie, là, James Harden, ben, alors que c'est de l'autre bord, t'as Kyle Lowry qui est allé souvent.
Exact.
D'ailleurs, Lillard partant cette année, est-ce que tu penses qu'il mérite sa place sur le 5 partant dans l'Est?
C'est une question chaude, hein? Il y a beaucoup de gens qui étaient contre. Je crois que oui, il y avait des joueurs plus méritants. Jalen Brunson chez les Knicks, petit point guard qui fait une saison phénoménale. Puis aussi Tyrese Maxey, hein, faut pas le sous-estimer, avec les 76ers de Philadelphie. J'adore son rendement, puis son amélioration qu'il a connue. Les deux, c'est des joueurs qui ont des statistiques très similaires, justement, à Lillard, voire meilleur. Puis Lillard, je crois qu'il est un peu exposé présentement, si je peux utiliser ce terme-là, défensivement. Joueur Holiday était tellement important à la défense des Bucks. Ils ont gagné un titre avec lui. En partant, ils l'ont remplacé par un meneur de jeu qui est tout l'inverse, vraiment juste une arme offensive. Puis le contraste est flagrant. Lillard est mauvais défensivement, c'est dommage à dire. Puis il s'en vient un peu plus vieux. C'est quand même une superstar, c'est quand même un gars qui peut tirer des 3 points de où ce qu'il veut, en réussir une dizaine par match s'il veut. Avec ses moyennes, je ne sais pas exactement, mais autour de ça, les 25 points par match, il va participer au concours de 3 points, là, si je me trompe, pour défendre son titre.
Exact.
Mais il réussit, je crois, seulement que 37% de ses tirs à 3 points cette saison, ce qui est juste au-dessus de la norme. Mm-hmm. Mais c'est pas le Damien Lillard. Il y avait des périodes à Portland où c'était des 40 points par match constamment.
Selon moi, il y a des saisons où est-ce qu'il n'est même pas allé qui était meilleur que cette année-là.
Exact, exact. Fait que c'est pour ça qu'All-Star, encore là, ça n'a pas trop de sens toujours. All-NBA a un peu plus de poids. à la fin de la saison. C'est juste 15 joueurs, les 15 meilleurs de la NBA. Surtout que là, on a retiré là, les positions. Ça, je suis tellement content qu'il
y ait
ça.
Oui, avant, c'était à marcher par les guards et les forwards.
C'est
là.
Ça. Il fallait que tu élises deux guards, c'est-à-dire deux arrières, deux forwards, les ailiers ou intérieurs, puis un centre par équipe, c'est-à-dire cinq, c'est-à-dire trois équipes de cinq. Fait que ça faisait en sorte que Joel Embiid souvent était relégué sur la deuxième équipe en raison de Nikola Jokic, sa présence qui est évidemment méritée. Là, cette année, ça va être différent. On peut mettre cinq guards si on veut. On peut mettre cinq pivots si on veut. Je crois que au match des étoiles, on pourrait quasiment y aller d'une même façon. Pourquoi pas y aller non plus... T'sais, là, je lance des idées de même. Là, je dis pas que ça va améliorer quoi que ce soit. Mais pourquoi pas y aller non plus avec les 24 meilleurs joueurs ou 30, là, si on veut faire 15-15. Toutes conférences confondues. On laisse faire Est contre Ouest. Là, on y est revenu cette année à ce format-là. Mais en tout cas, c'est mon petit rant. Là. Je me dis que
Il
y a trop de joueurs qui méritent d'être reconnus.
Exact. Puis c'est des bonnes idées. Puis je pense qu'Adam Silver a montré depuis qu'il est en poste qu'il n'a pas peur de changer les choses. On l'a vu avec le play-in, le tournoi intra-saison. Écoute, peut-être qu'il nous écoute puis qu'il, qu'il porte attention à tes idées. Puis en terminant, j'ai deux questions pour toi. La première, on parle de changer les règles. Je connais la réponse, mais qu'est-ce que tu penses de la règle du nombre de matchs minimum pour avoir des récompenses individuelles? Qui est quoi, 65 matchs, je pense? Je sais pas si ça change 65. Selon les récompenses, mais 65 pour l'MVP en tout cas.
Ouais, pour l'MVP, puis toutes les autres récompenses individuelles et All-NBA aussi, de quoi on parle depuis tantôt. All-Defensive, même chose. Même chose pour les équipes All-Rookie. Fait que c'est difficile. Mon opinion varie, je te dirais. Là, on a eu une discussion à un moment donné là-dessus avec d'autres gars d'Alley-Oop 360, puis je m'étais fait un peu remettre à ma place. J'avais dit que c'était une stupid-ass rule.
Les gars de l'équipe, ils ont des positions assez tranchées. Là. On sait où est-ce qu'ils penchent.
Moi, mon point de vue, c'est que si, mettons, Joel Embiid en avait joué 64 des matchs avec les productions qu'il avait toute la saison avant de se blesser, ce Joel Embiid-là à 64 matchs a une plus grande valeur que n'importe quel autre joueur cette saison à 82 matchs. Ça, c'est mon opinion. Puis je me dis que ce serait dommage qu'à cause de la règle, il soit puni, il soit même pas considéré pour rien d'autre. C'est comme si sa saison était un peu effacée des livres d'histoire, en quelque sorte. C'est ce que je trouve dommage. Mais après ça, je suis pour le fait d'encourager les joueurs à jouer plus. Je suis pour le fait d'encourager les vedettes à, autant que possible, participer au match lorsqu'ils sont pas blessés. Ça devrait être la base. Mais c'est en même temps, là, Embiid, il a ressenti une pression de jouer quand il aurait peut-être pas dû, parce qu'il était déjà blessé au même genou où il s'est partiellement déchiré le ménisque. Là. Ça l'a fait revenir au jeu plus tôt. Bon, je veux pas non plus m'éterniser sur ce sujet-là, mais il y en a aussi qui disaient que s'il était peut-être pas revenu plus tôt, s'il avait pris un peu plus de temps pour réhabiliter son genou, il n'y aurait pas eu cette blessure-là qui est presque catastrophique pour la saison régulière des Sixers. Reste à voir, il devrait revenir pour les séries, mais ça, c'est... Est-ce qu'il va revenir à 100%?
Ouais, c'est à voir.
C'est à voir. Fait que bon, ça, c'est mon opinion grosso modo. Là, je pourrais t'en parler plus, mais vite fait, je suis ni pour ni contre. Il va falloir encore attendre quelques années avant de voir les résultats, je crois.
Ouais, et puis moi, je regarde ça. Dans les autres sports, on calcule la production totale, alors qu'au basket, c'est les moyennes. Donc, tu sais, mettons, au hockey, il n'y a pas de nombre minimum, mais tu sais, pour prendre deux grosses vedettes, Connor McDavid est de loin, bon, peut-être pas de loin, mais le meilleur joueur, il a manqué des matchs, mais là, il est revenu aussi bon, mais c'est un autre McKinnon qui, lui, est bon depuis le début de l'année, ben, il est en avance là, pour l'équivalent du trophée dans la Ligue nationale. Dans le basket, par contre, puisqu'on regarde juste les moyennes, ben, ton nombre de matchs ne paraît pas sur ces statistiques-là. Mm-hmm. Moi aussi, comme toi, se faire voler MVP parce que t'as joué un match, t'as manqué un match de trop, ce serait dommage.
Ouais.
J'ai hâte de voir. Je le disais tantôt, Adam Silver s'adapte et t'as pas peur de faire des changements. Je pense qu'ils vont voir ce que ça donne, puis on va évaluer comment que. Est-ce que ça vole des trophées à beaucoup de joueurs ou des récompenses?
Mais il y a quand même à considérer comme facteur là-dedans que l'association des joueurs ont approuvé cette règle-là. Ça fait partie de la nouvelle convention collective. Fait que, en quelque part, les joueurs ont dû voter. Je sais pas si ça a été un vote serré, là, mais j'ose croire que oui, parce qu'il y a tellement de gars qui vont être pénalisés. T'en as d'autres qui s'en foutent complètement, comme Jimmy Butler est sorti aujourd'hui disant qu'il sait ce qu'il vaut, puis
mais des fois, ça affecte leur contrat, des bonus.
Ben, c'est ça, là, exactement. C'est pour ça que c'est touchy. Là. Si, mettons, Embiid peut pas toucher à tel bonus ou à tel pourcentage du plafond, de la masse salariale, en parlant de Supermax, là, c'est là que c'est très, très dommage, ouais, effectivement. Parce que t'as manqué la coupure, peut-être, de pas beaucoup. Là, il va la manquer de beaucoup parce qu'il y a une longue, ouais, absence. Mais tu parles d'un joueur qui a joué 64 games. Oups! Il est pas éligible à rien. Ça, c'est dommage.
Dernière question pour rester ici au Québec. Est-ce que tu penses que le départ de Buddy Hield à Indianapolis peut aider le développement de Bénédicte Mathurin?
Ah, c'est certain, parce que là, qu'est-ce que tu fais avec Mathurin? Tu l'insères automatiquement dans le 5 de départ. Il apporte un peu de tir à 3 points comme Buddy Hield, mais plus, c'est-à-dire plus de percée au panier, de l'athlétisme, capable de créer son propre tir. Peut-être pas encore le meilleur passeur de l'histoire, là, mais je dis pas non plus que c'est dans les cartes pour Ben, mais quand même, il y a un potentiel d'All-Star aussi chez lui, justement en raison de sa création offensive. C'est le profil. Tu regardes jouer Bénédicte Mathurin avec son athlétisme, ses step-backs, capable de décocher un tir à 3 points par-dessus n'importe qui. Tu vois le profil d'un All-Star, tu vois le profil d'un meneur d'une équipe. Mais il n'est pas encore tout à fait là. T'sais, l'efficacité, c'est difficile. La défense aussi, c'est pas encore quelque chose qui est très poli chez Bénédicte. Mais avec des bons joueurs autour de lui, comme justement Siakam et Haliburton, si après ça, tu es dans une situation où tu gagnes et tu fais partie de ça, c'est-à-dire ton coach te fait confiance, il te donne 30 minutes par match, le ciel, the sky's the limit, man, pour Bénédicte.
Bah, oui. Puis, on peut peut-être comparer un petit peu sa progression à celle de Scottie Barnes. Deuxième saison, un petit peu plus difficile que sa première, mais on regarde Scottie Barnes maintenant, puis il connaît la meilleure saison de sa carrière. Je dis pas qu'il va être aussi bon tout de suite, mais je pense que là, d'avoir du temps sur le 5 partant, ça pourrait l'aider aussi beaucoup. Là.
Définitivement. Faut garder un œil sur lui, là, justement, si vous êtes devant la télé, les Pacers jouent. Il y a Siakam, un des favoris de la foule pour longtemps à Toronto, qui est maintenant en Indiana, et un Québécois qui a un beau futur devant lui. Il faut les encourager, il faut les regarder. Puis les Pacers sont juste intéressants, sont le fun. C'est la meilleure offense de l'histoire présentement, si on regarde leurs statistiques. Peut-être pas récemment avec les blessures de Haliburton. Il vient de revenir, il a juste marqué 5 points hier, mais bon, c'est un gars qui est une vraie de vraie superstar, partant au match des étoiles, meilleur passeur moyen de la NBA présentement. Faut vraiment s'attarder à eux, parce que dans 3-4 ans, quand les Celtics seront plus à leur apogée, les gros ténors déjà de la conférence Est, lorsqu'eux vont commencer à vivre des difficultés comme font les Warriors puis les Lakers présentement, dans l'autre côté, ben là, c'est une jeune équipe comme justement les Pacers qui vont pouvoir prendre le relais.
Ouais, il faut qu'ils améliorent un peu leur défense, mais ouais, parce que là, tu l'as dit, si on est regarde des jouer, une des meilleures attaques de tous les temps, ou en tout cas côté statistique, je sais pas s'ils sont encore la pire défense de la ligue, mais en tout cas, ils sont dans les vraiment moins bonnes. Mais ça fait des matchs excitants. Il y a un Québécois en plus qui maintenant risque d'avoir encore plus de temps de jeu. C'est définitivement à surveiller. Puis en termes de petite plug, shameless plug, là, si vous voulez suivre tout sur le basket, ben, allez nous lire à Alley-Hoop360. Liam l'a dit, là, c'est. Parce que c'est le site le 100% francophone qui se concentre à 100% sur le basket. T'sais. On est, je pense, faut pas avoir peur de le dire, une référence au Québec sur le sujet.
Faut pas, on veut pas avoir l'air non plus de se vanter non plus quoi que ce soit, mais t'sais, on est fiers de ce qu'on fait, on se prend quand même au sérieux, puis on considère
Je suivais le site avant d'y participer, j'ai vu William Thériault qui faisait partie du site avant, dire « Hey, on cherche du monde ». J'aimais déjà le contenu, fait que je me suis proposé, puis ça a été le début d'une belle aventure.
Ce qui est important, c'est que on essaie d'avoir une rigueur, puis qu'on essaie vraiment de donner les bonnes infos en ayant du plaisir. Donc, si jamais vous vouliez voir justement tous ces échanges-là qui ont eu lieu à la date limite des transactions, on a fait un registre complet sur le site, c'est disponible pour aller vraiment consulter ça de façon facile. Là, tout est regroupé de façon compréhensible. Fait que, ben, merci de m'avoir invité aussi, Charles.
Ça fait plaisir, mais je suis très content que tu sois là. Merci d'avoir fait un tour. Écoute, c'était Conduite Antisportive sur les ondes de Schiste 94.3. On se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste. Bonne soirée.